10h22 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Je vous rappelle cette nouvelle de dernière heure, pour ne pas dire pratiquement de dernière minute. Un visage important de la coalition Avenir Québec, Sonia Lebel, ne se présentera pas aux prochaines élections. Certains la voyaient comme une candidate dans la course à la chefferie de la coalition Avenir Québec. Finalement, évidemment que ce ne sera pas le cas avec cette annonce qui vient de tomber. Sonia Lebel, qui ne sera pas candidate aux prochaines élections provinciales. Elle mentionne que cette décision-là avait été prise durant les fêtes, donc avant l'annonce de François Legault, puis que là, dans les derniers jours, avec les approches qu'elle a eues concernant une potentielle candidature à la chefferie de la CAQ, elle a pris le temps de jaser avec du monde, mais est quand même restée en bout de ligne sur cette décision-là de ne pas être candidate aux prochaines élections provinciales. Sonia Lebel. Dans l'actualité à l'international, ça brasse énormément depuis le début de l'année. Donald Trump, qui est parti sur un méchant trip, un autre, diront certains. Puis là, c'est le Groenland de son petit boss du moment à Donald Trump. Continue de marteler que pour des raisons de sécurité, il faut absolument que les États-Unis prennent possession du territoire danois du Groenland. Et je fais exprès de le dire, là, le territoire danois. Danois du Groenland, c'est un territoire qui appartient au pays du Danemark. Et dans ce contexte-là, se passe énormément de choses. Et on voit passer des nouvelles. Puis des fois, on se demande un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi tel pays va agir de telle façon? Et là, un des éléments de l'actualité en fin de semaine, ça a été que le Canada pourrait envoyer des soldats au Groenland, comme l'ont fait certains pays de l'OTAN dans les derniers jours. C'est pas la grosse affaire, là. On envoie quelques-uns juste pour être là, juste pour assurer une certaine présence. Pourquoi on le fait, c'est entre autres ce qu'on va demander à l'analyste politique Georges Mercier, qui est au bout du Zoom. Georges, salut.
Salut, Max.
C'est ça, là. On a parlé un peu avant d'entrer en onde. Le fait d'envoyer des soldats au Groenland, dans le concret, qu'est-ce qu'on envoie comme message en tant que pays membre de l'OTAN? Est-ce que c'est pour dire aux États-Unis, vous ne pourrez pas attaquer le Groenland parce que nous, on va être là, ou ça a une autre signification?
Il y a certainement peut-être cette idée-là derrière, de dire, regardez les Américains, faites attention, s'il y a des soldats, nos propres soldats là-bas, allez-vous ouvrir le feu sur eux si vous tentez d'envahir? Mais je pense que la vraie raison, c'est que les pays européens qui ont envoyé des troupes, puis là, je précise, on parle pas de beaucoup de monde, là, on parle d'une quarantaine de personnes. Si le Canada a envoyé des soldats, ce serait pas beaucoup de monde non plus. Eh bien, c'est qu'on prend Trump au mot de la lettre. Trump nous dit comme justification, j'ai besoin de Groenland pour assurer sa sécurité parce que l'OTAN collectivement n'est pas capable de le faire. Qu'est-ce que les pays membres, certains pays membres de l'OTAN font? Mais ils envoient des soldats pour dire, regardez, on est prêts, nous, à nous investir davantage là-bas. On est prêts à contribuer à cette sécurité-là. Évidemment, ça ne satisfait pas Donald Trump. Pourquoi? Parce que c'est très clairement un prétexte, la sécurité nationale, qu'il invoque, parce qu'il semble y avoir d'autres motivations derrière pour le Groenland, notamment en raison des changements climatiques. Éventuellement, il y aura peut-être là-bas des ressources importantes, des terres rares à exploiter qu'ils voudraient qu'ils captent aux États-Unis. Puis il y a certainement cette ambition-là derrière, dans la tête du président, de dire, ce serait sympathique si j'étais le premier président depuis très, très longtemps à accroître la masse territoriale des États-Unis.
Dans le contexte actuel où on se demande tous, j'ai l'impression, OK, les limites de Donald Trump, s'il y en a, où elles sont, est-ce que tu as l'impression qu'il pourrait éventuellement en arriver à prendre le Groenland par la force, ou pour toi, malgré le personnage complètement imprévisible, il n'y a absolument aucune chance que ça arrive, en plus avec le contexte où là, il va y avoir des soldats de pays membres de l'OTAN sur place?
Je pense que la grande question, c'est non seulement est-ce que Trump pourrait être assez, puis là, je le dis, je pèse mes mots, assez fou pour le faire, parce qu'il faut quand même souligner que les conséquences seraient gigantissimes pour les relations entre les États-Unis et l'Europe, qui sont des alliés historiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais la vraie question que je me pose, moi, c'est est-ce que les Américains accepteraient d'obéir à ces ordres-là? Est-ce qu'il n'y a pas un scénario où les forces armées américaines, qui ont d'ailleurs combattu aux côtés de soldats danois en Afghanistan notamment, les soldats qui ont perdu la vie pour aider l'Amérique dans sa guerre en Afghanistan, est-ce que l'armée pourrait pas dire « là, ça suffit, c'est trop ». Parce que jusqu'à maintenant, Donald Trump a, oui, utilisé beaucoup l'armée pour faire des interventions à l'étranger, mais On peut débattre de si c'était justifié ou non. Ça demeurait dans le périmètre très large de ce qui était légitime pour l'armée américaine de faire sous les ordres du président. Là, si le président leur demandait d'aller annexer, envahir un pays souverain, c'est pas clair du tout que les généraux américains et même les généraux très proches de Donald Trump ne diraient pas, là, ça va trop loin, on arrête. Donc, est-ce que l'armée accepterait ou au contraire, est-ce qu'on pourrait avoir des démissions en masse? C'est-à-dire, là, le haut commandement, on n'accepte pas ça. Deuxième possibilité, ce n'est pas une mesure qui est très populaire aux États-Unis. Et là, déjà, on entend des sénateurs républicains dire, écoutez, moi, s'il ordonne ça, notamment Tom Tillis de la Caroline du Nord, il dit, moi, s'il ordonne ça, je vais voter pour sa destitution. Donc, c'est une décision que Donald Trump pourrait peut-être même pas prendre lui-même, peut-être qu'il pourrait essayer de la prendre, peut-être qu'on lui dirait non. Okay? Il y a cette grande incertitude-là à ce niveau-là.
Là, il y a beaucoup d'informations qui sortent d'un peu partout. Là, j'ai-tu bien vu passer un matin que Donald Trump a texté le premier ministre norvégien pour y passer le message qu'il n'était plus obligé de penser seulement à la paix parce que de toute façon, il n'avait pas gagné le prix Nobel?
Oui, mais c'est ce qu'on apprend dans le New York Times. Connais-tu la chanson de Carly Simon, You're So Vain? Moi, ça m'a fait penser à ça. Si vraiment le président des États-Unis d'Amérique se permet d'écrire à un autre chef d'État pour dire, écoutez, le Groenland, je le veux seulement parce que vous m'avez pas donné le prix Nobel de la paix. D'ailleurs, il comprend pas que c'est pas le premier ministre de la Norvège qui donne le prix Nobel de la paix, c'est le comité Nobel. Mais donc, on rentre vraiment dans un monde de folie furieuse. Puis moi, j'ai toujours résisté à cette tentation-là parce que derrière Donald Trump, il y a des forces profondes, il y a des enjeux réels auxquels il a tenté de répondre. C'est pas seulement un fou, puis ses électeurs sont pas tous des fous. Mais là, avec Donald Trump, on rentre dans le registre de la folie. Autre exemple de folie de Trump récemment, celle qui a gagné le prix Nobel, Madame Machado, a été reçue à la Maison-Blanche et ils ont fait un genre de mise en scène devant les caméras comme si c'était lui qui le recevait pour de vrai. Alors que c'est pas ça du tout. Il lui a juste donné son prix à elle. Donc vraiment, on nage dans un monde assez curieux. D'ailleurs, n'oublions pas une chose, Donald Trump est de plus en plus vieux, hein. Et comme des hommes plus vieux, éventuellement, on perd le contact avec la réalité. Ce qui est dramatique ici, c'est que ça demeure le président des Amis des États-Unis et qu'il a à la Maison-Blanche actuelle, contrairement à ce qu'il y avait lors de la première présidence, mais ben, il y a des gens qui sont complètement dévoués à lui et fidèles, qui sont prêts en quelque sorte à mettre en place ses politiques s'il le désire.
Trump qui menace d'imposer des tarifs à 8 pays européens qui sont contre son idée de prendre possession du Groenland. Quelle sera la réponse de ces pays-là? Là, je lisais tantôt, puis là, je voyais des médias parler de sortir le bazooka des tarifs, ou je sais pas trop de quoi on parlait, là, mais d'une mesure pour vraiment venir bloquer Donald Trump dans son intention de faire mal à l'Europe en y faisant encore plus mal?
Bah, c'est à peu près ça l'idée. C'est ce qu'on appelle l'outil anti-coercitif qui donnerait, s'il était adopté, des pouvoirs immenses à la Commission européenne pour, par exemple, restreindre des licences bancaires des compagnies américaines en Europe, restreindre l'importation de technologies américaines, couper des investissements américains. Ce serait effectivement un bazooka parce que là, ça mettrait vraiment le feu aux poudres. Ce qui est intéressant avec l'Union européenne, c'est qu'on parle souvent de l'UE. Comme si c'était une seule entité, un seul bloc. Dans les faits, il y a une grande intégration en Europe, mais il y a 27 pays. Ces 27 pays-là n'ont pas tous la même vision des États-Unis, notamment la Pologne et Viktor Orban, surtout et Viktor Orban en Hongrie, sont dirigés par des gouvernements qui sont plus sympathiques aux Américains et qui ont tendance à bloquer les mesures les plus fortes pour s'opposer aux États-Unis. Mais autre élément important, depuis que Trump est revenu à la Maison-Blanche, l'Union européenne a fait preuve d'apaisement. On lui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je rappelle cet été, on a eu les accords de Turnberry, où les Européens ont dit essentiellement, vous savez quoi, on va accepter que nos biens aux États-Unis soient taxés de 15 % de droits de douane. Nous, on ne vous imposera pas de droits de douane en retour. Et plus encore, on s'engage à investir chez vous. Donc, le message qui a été envoyé à Trump cet été, dans sa posture-là, assez claire d'intimidateur, c'est écoutez, les Européens, je peux les intimider autant que je veux, ils vont me donner ce que je veux à la fin. Donc, ils n'ont pas beaucoup de crédibilité. Et là, le gros défi pour l'UE, c'est de retrouver une crédibilité. On parle notamment d'imposer peut-être des contre-tarifs sur certains biens américains. C'est pas suffisant pour l'instant. Puis, dernier élément qui est intéressant, tu sais, on parle de défense. Les États-Unis ont un budget à cette année de défense de 874 milliards de dollars. Ça pourrait approcher 1 000 milliards éventuellement. Tous les pays de l'Europe combinés ont à peu près 450 milliards. Donc, en matière de défense, en matière de force armée, de dissuasion, il n'y a pas d'équivalent ici. Les Européens ont vraiment sous-investi dans leur défense. Et là, ils se retrouvent dans une position aujourd'hui où ils ont été dépendants pendant très longtemps des États-Unis. en pensant que les États-Unis n'allaient jamais faire défection, n'allaient jamais s'opposer à eux. Et en fait, c'est un peu la cigale, la fourmi et la cigale. Les Européens ont été la cigale qui chantait tout l'été, et là, l'hiver arrive, et ils se retrouvent un peu sans nourriture, sans ressources.
Autre dossier, Georges Mercier, puis on est toujours lié avec les États-Unis parce qu'on dirait que Donald Trump en ce moment est en train de dicter tout ce qui se passe à l'international. Trump qui crée le Conseil de la paix pour Gaza. Il aurait demandé à la Russie d'y siéger, invitation qui a aussi été lancée au Canada. Il demande 1 milliard de dollars au pays qui voudrait obtenir leur siège permanent, ce à quoi Mark Carney a répondu « Ah, merci, mais non, merci ». Là, il est tombé sur la tête.
En fait, c'est très intéressant, ce type d'un conseil d'administration de la paix mondiale, parce qu'on dirait que ce que Donald Trump veut faire, c'est tasser l'ONU, ces questions-là. Parce que dans les faits, sur la planète, il existe un conseil d'administration de la paix qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies, où théoriquement, l'idée derrière l'ONU, c'est de regrouper toutes les nations du monde, de s'asseoir ensemble, puis de négocier des solutions à nos problèmes collectifs. Donald Trump a beaucoup d'animosité pour l'ONU parce qu'il juge, comme d'autres républicains américains, là, c'est pas nouveau de ce côté-là, que l'ONU est souvent opposée aux intérêts américains, qu'elle met des bâtons dans ses roues, qu'elle ne permet pas aux États-Unis d'exercer leur puissance de manière plus unilatérale. Donc, ce que la Maison-Blanche fait, c'est on va créer un autre organe qui va avoir des missions assez similaires, de régler des conflits, de surveiller des cessez-le-feu, des choses comme ça. Mais dans cet organe-là, c'est Donald Trump, le président américain, qui va être le
C'est
chairman, le
ça.
président. Donc, c'est lui qui aurait le dernier bout du bâton. Ce qui est intéressant, par contre, puis là, je pense que c'est intéressant pour Gaza, c'est que c'est peut-être le type d'organisme qui pourrait réussir là où l'ONU a failli. Parce que notamment à Gaza, c'est pas l'Organisation des Nations Unies qui a réussi à avoir un cessez-le-feu. Là, c'est la Maison-Blanche. Donc, on verra ce que ça va donner, mais c'est certain que pour tous les diplomates mondiaux là, qui vivent de ces grandes institutions-là, ben, c'est pas sympathique parce que voilà, leur importance va être encore moindre.
Puis le fait de demander 1 milliard, par exemple, au Canada pour joindre ce conseil-là puis avoir son siège permanent, qu'est-ce que le Canada aurait. Là, Mark Carney a dit non assez vite, là, puis qu'est-ce que le Canada aurait à gagner? Parce que j'imagine qu'il y a quand même une certaine logique derrière cette demande-là de Donald Trump. S'il le demande, c'est qu'il se dit il y en a qui vont vouloir parce qu'ils vont savoir qu'il y a quelque chose au bout du bâton à aller chercher.
Moi, j'ai envie de dire qu'il réfléchit à ça comme le propriétaire de Mar-a-Lago en Floride, qui voit ça comme un club privé. Et pourquoi est-ce qu'on s'abonne dans la vie à un club privé? Ben, pour avoir accès aux autres membres du club privé, pour pouvoir être là où les négociations, les décisions se prennent. Et ce genre de milliards de dollars-là, c'est non seulement pour dire je suis sérieux dans ma volonté de se joindre, mais aussi j'ai mis de la peau dans le jeu. Donc, j'ai quelque chose à perdre si je m'en retire. Voilà, pour montrer qu'on est sérieux dans ça. Mais c'est vraiment, je répète ça, c'est une logique de club privé. Donald Trump veut créer son propre petit club qu'il va contrôler parce qu'il serait le président de cette chose-là pour pouvoir mieux contrôler ce qui se passe à l'international.
Est-ce que ça pourrait être la première étape d'une démarche des États-Unis vers se retirer de l'ONU?
Mais là, les États-Unis sont déjà retirés la semaine dernière d'environ 31 traités ou 31 pactes liés à l'ONU. Donc, il y a déjà très clairement un désinvestissement américain de l'ONU. ONU qui, d'ailleurs, va avoir de la misère à fonctionner dans les prochains mois parce que les Américains investissaient beaucoup là-bas, donnaient beaucoup d'argent à cet organisme-là, qui est dont les comptes sont en souffrance aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il se retirerait au complet de l'ONU? La question, c'est est-ce que ça sert à quelque chose de s'en retirer si, de toute manière, on agit sur la scène mondiale comme si on n'y était plus?
Intéressant, Georges Mercier, analyste politique. Je dis la même affaire à chaque fois qu'on se quitte, là, mais d'après moi, on va se retrouver bientôt parce que ça bouge excessivement vite. Je le disais, Donald Trump qui dicte à peu près tout ce qui se passe à l'international avec une simple publication sur Truth Social, il est capable de faire les nouvelles. Puis, fait que ce sera très, très intéressant de suivre ça.
Ça sera avec plaisir.
Georges, merci beaucoup. Au retour, on reçoit Daphné Dion-Vien, les journalistes au Journal de Montréal, Journal de Québec, et on parle de l'état de nos infrastructures de cégep dans la province. On se rend compte que épelay, ça va pas super bien, et surtout que ça coûte de plus en plus cher à entretenir via des travaux d'urgence. Quand on prévoit les travaux, je le dis, on les prévoit, on peut avoir des budgets, puis quand c'est des travaux d'urgence, c'est ah ouais, ça presse, il n'y a pas d'appel d'offres, ça coûte plus cher. Comment on en est arrivé là? On jase avec Daphné Dion, on vient du Journal de Montréal. Vous écoutez le Point de Max, il est 10h36.
Le